Merci. Je poserai quelques petites questions très vite. Pour passer la parole à la salle après. Oui, le micro. Alors, j'ai une question pour Jean-Jacques et Colette. Peut-être lui aussi en vous entendant une deuxième fois. Enfin, alors, je reprends la métaphore du bridge où vous dites, et Lacan le dit aussi, que le psychanalyste trouve une liberté dans sa tactique. C'est bien ça.
Qu'il y a une liberté
dans sa tactique. Alors, en même temps, dans votre indication clinique, on voit que l'analyste n'est pas responsable du transfert. C'est-à-dire, l'exemple que vous donnez, l'analyste est pris dans une série de scènes qui sont préétablies, qui sont déjà là. Alors, ma question est la suivante. Comment entendre la question de la liberté dans la tactique, de la tactique chez l'analyste, quand il n'est pas responsable du transfert?
Je le note pour toi.
D'accord, merci.
une question à Christophe. Alors, je vous cite. La condition minimale et nécessaire pour qu'un sujet puisse devenir analysant, c'est d'y croire. Donc, croire à la supposition de l'inconscient. Et vous dites que c'est de sa responsabilité. On entend, on parle plutôt de la responsabilité de l'analyste, responsable de l'inconscient, donc de la position de l'analyste. Alors, je trouve un peu antinomique croire à la supposition de l'inconscient et la responsabilité. Et je dirais presque que le sujet devrait être irresponsable de l'inconscient pour entrer dans le dispositif. Donc voilà une petite précision sur la question de la responsabilité. Je ne parle pas de la responsabilité subjective. Hein. Louis, une phrase. C'est un peu difficile. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire, parce que vous faites la connexion entre semblant d'objet et sujet supposé savoir. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il y aurait un ordre? C'est-à-dire que l'un présupposerait l'autre et celui lequel? Je ne sais pas si ça tient la question.
Oui.
Ça tient.
Très bien.
Je m'arrête là.
Très bonne question.
Et voilà. 3 minutes pour répondre.
Alors d'abord, vous savez, chaque fois que Lacan parle de liberté, c'est une attrape. Parce que justement, enfin, à part le psychotique donc qui est libre, les libertés sont souvent l'ordre du choix forcé. Non. Quand il est question de liberté, là, ça veut dire qu'il a la liberté de savoir à quoi il a affaire. C'est ça sa liberté. Et que selon ce à quoi il a affaire, eh ben, il faut qu'il s'y prenne d'une façon différente. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, oui, effectivement, il y a plus de jeu. Alors, il y a le jeu structural, mais il y a un jeu plus subtil qui concerne la façon dont les choses se présentent chaque fois. Il est plus libre en sa tactique, ça veut dire qu'il s'y prend avec ses armes. Je sais pas, moi, Freud, il trouvait commode le divan. Il y en a d'autres qui trouvent ça pas commode. L'autre jour, on a parlé du Skype même. Bon, je veux dire, plus libre en sa tactique, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut rester 2 mois sans l'analyse, ou est-ce qu'il faut faire le Skype entre-temps ? Par exemple, le Skype entre-temps, n'est-ce pas ? Par exemple, c'était une des questions qu'on posait l'autre fois. Donc, c'est ça que ça veut dire, la liberté. Hein ? Moi, ça, enfin, c'est en tout cas comme ça que je comprends. C'est-à-dire que... il est là pour réaliser quelque chose, et donc il se débrouille comme il peut, mais simplement pour se débrouiller comme il peut, il faut quand même qu'il tienne compte de la structure. C'est pour ça que ce dispositif, l'idée de savoir ce qui est caché au sujet et ce qu'il est censé devoir découvrir, n'est pas placé de la même façon, ici, dans le schéma, qu'on soit à gauche ou à droite. C'est-à-dire qu'on soit, sans savoir ce qu'il en est du mort, ou bien que le mort, on vous le montre. Ça ne fait pas pareil. C'est ça qu'il explique. Parce que cette différence entre les deux, le joueur 1 ou le joueur 2, figure dans le texte, hein, je ne l'ai pas.
Oui, Jean-Jacques a répondu en partie. C'est pour ça que j'avais pris comme ligne l'analyste ne se doit que d'une chose, c'est d'être averti de la structure. Et c'est ce qui permet finalement la liberté de son acte. Hein ? Et donc quand je vous ai proposé ce cas d'un patient psychotique dont j'étais absolument avertie, l'enjeu était d'empêcher cet amoureux d'aller tuer une femme qu'il persécutait. C'est dans ce sens que d'une certaine façon je savais à quoi je pouvais m'attendre. Mais finalement, ma liberté était dans ce cas-là, premièrement, d'endosser le risque d'être le futur objet de l'érotomanie, ce que j'ai accepté les yeux grands ouverts, et en même temps, la liberté de faire en sorte de ne pas me faire assassiner à mon tour. Hein? Donc, je veux dire, C'est un choix forcé, d'une certaine façon, mais une option, parce qu'effectivement, tous les coups sont permis, comme Jean-Jacques le disait, pas tous les coups, certains coups sont permis, et on voit bien que son transfert à la psychanalyse, parce qu'il y avait un réel transfert chez cet homme à la psychanalyse, ne rendait pas la psychanalyse opérante pour autant. Hein? Et que donc, les coups qu'il m'était permis, c'était d'essayer d'agir d'une quelconque façon. Pas seulement en libérant l'objet d'érotomanie, mais en ne sombrant pas avec lui dans quelque chose d'inutile, voire de dangereux. Hein, et c'est là, on voit bien, j'ai parlé de cela parce qu'on voit bien comment le mot qui m'échappe n'est interprétation qu'après coup, mais qu'effectivement il y avait aussi la liberté de laisser échapper le mot et de le reprendre de telle façon que ça opère. Oui.
Voilà.
Alors, j'ai beaucoup insisté dans ce texte donc sur la responsabilité de l'analyste et l'acte de l'analyste. Alors, l'analysant, lui, qu'est-ce qui lui arrive au fond ? À un moment, il rencontre quelque chose, potentiellement, il peut rencontrer quelque chose qui vient signaler sa division. Et donc là, à partir de là, il a un choix à faire. il a un choix, c'est de sa responsabilité. Donc, il peut entrevoir que l'inconscient, ça existe. Il peut prendre appui sur le type en face qui est là pour ça. Mais il a quand même quelque chose à engager de lui. Donc, il a un choix et oui, il est responsable aussi de devenir analysant. C'est-à-dire de passer de cette position de juste celui qui se plaint à celui qui va assumer une part de sa responsabilité, en quoi il est concerné par ça. Mais ça n'est possible que, je crois, s'il a pu rencontrer quelque chose en face qui a pu le mobiliser à cet endroit-là. Donc, voilà, mais après, il a quand même le choix de s'engager ou pas, hein. De faire juste un petit tour et repartir, parce que là, il y a plein de
choses. Heureusement. Oui. Heureusement qu'il a le choix.
Oui, voilà.
Vous avez comme ça des gens qui ne veulent pas entamer une analyse, justement, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'auront pas le choix. C'est-à-dire qu'une fois embarqués, ils ne pourront plus s'en défaire. Or, il y a toujours, c'est toujours remis en cause ce choix de poursuivre.
Mais oui, on est responsable de son inconscient. Vous avez l'air de penser qu'on n'était pas responsable de son inconscient.
Non.
On est responsable de ce qu'on dit et de ce oui, qu'est.
Non, je trouve antinomique la croyance à l'inconscient et la responsabilité. Enfin, il y a quelque chose là. Je l'entends du côté psychanalyste. Parce que la position de l'analyste, parce que l'analyste l'a créé à l'inconscient. Maintenant, l'inconscient fait ses preuves. Non, mais s'il est à cette place-là, il a intérêt à croire. Enfin, il a dû croire à un moment donné. Mais là, à la position de l'analyste, je ne sais plus s'il croit encore. Il n'a pas besoin de croire. Parce que...
C'est peut-être la différence qu'il y a entre y croire et le croire aussi. Lacan dit ça dans RSC, je crois.
Moi, je ferais une distinction de position enfin, et supposition de l'inconscient. C'est-à-dire que le psychanalyste est là pour poser l'inconscient, d'où sa responsabilité, et l'analysant du côté de la supposition de l'inconscient.
C'est-à-dire que c'est toujours pareil, c'est responsabilité de qui ?
On n'a pas bien entendu ce que vous avez dit. Là.
Il faut parler de...
Et il n'y a pas un portable ?
Il y en a un deuxième.
Non, je disais que, enfin, que j'entendais la question de la responsabilité du côté du psychanalyste dans la mesure où il posait l'inconscient. Il a crié à l'inconscient quand lui-même il était analysant, mais de sa position de l'analyste, il me semble qu'il n'a plus besoin de croire.
Oui.
C'est pour ça que je trouvais un peu une sorte d'oxymore, responsabilité et croyance du côté de l'analysant. Voilà. C'est-à-dire la croyance du côté de la supposition et la responsabilité du côté de la position. Enfin, quelque chose comme ça. Voilà.
Oui, je vais répondre. J'ai aussi une question à Christophe. Je pose d'abord ma question. Vous avez évoqué à deux reprises le terme d'intime. On ne l'utilise pas très souvent. D'ailleurs, quand vous avez commencé à parler, je me disais l'intime touché. Je pensais que vous faisiez référence à la fin de l'analyse, mais vous faites référence à l'entrée à l'analyse. Donc, est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce que vous entendez par l'intime touché ? L'intime touché. Donc, c'est pas un concept de l'intime. Donc, si vous pouvez développer un peu plus ça. Donc, ma réponse. Oui, vous avez posé la question juste. Vous avez vu qu'à aucun moment, je parle ni de névrose, ni de psychose. Je suis d'accord avec mes collègues sur la question d'être averti sur la structure. Le problème, c'est que parfois, ça demande du temps à être averti sur la structure et à pouvoir déceler quelle est la structure. D'ailleurs, c'était un peu ma question à Jean-Jacques également. Une fois qu'on est complètement sûr que c'est un obsessionnel ou une hystérique, on peut jouer au bridge. Mais avant ça,
il y a les annonces, il y a les enchères.
oui, avant de jouer. Des fois, il y a des enchères, on ne joue pas, parce que tout le monde passe. Ça arrive.
Donc il y a un certain temps où on est dans les enchères, disons. Donc, la question, c'est le temps des enchères. Qu'est-ce qui fait l'analyste? Je pense... Non, c'est une patiente... Je ne suis pas d'accord. Comment une patiente? Je crois que les termes... C'est pour ça que j'ai essayé de chercher les termes des maniements. Il y a plusieurs références aux termes maniements, mais qui vont dans la même direction, toujours, chez Lacan. Maniement du transfert, de l'angoisse, de l'objet. Au fond, ça revient à la même chose. C'est qu'il faut qu'il y ait un maniement de la part de l'analyste pour qu'il se produise le sujet supposé savoir. Le sujet supposé savoir, ce n'est pas quelque chose qui, avec laquelle le sujet vient. Il y a parfois des suppositions de savoir imaginaire. Mais Lacan parle d'une institution du sujet supposé savoir. Pour qu'il y ait une institution, il faut qu'il y ait un maniement du transfert. Donc pour moi, la séquence, c'est maniement du transfert, institution du sujet supposé savoir. Et après, on passe au-delà des enchères.
Question.
La réponse à la team.
Ah oui.
Oui, alors... Quand j'ai fait ce travail-là, je me suis bien sûr posé, je suis revenu en arrière sur ma propre expérience. J'ai eu 3 analystes dans ma carrière, et il s'est passé 3 fois quelque chose au début, mais je peux le dire maintenant, je n'aurais pas pu le savoir à l'époque, qui touchait un point tout à fait particulier, alors que c'était des analyses qu'on avait, qui étaient très très différents les uns des autres, mais ça touchait un point qui venait au fond remettre en circulation tout ce qui jusqu'à présent était bien huilé pour que ça fonctionne comme ça. Ça pouvait, au fond, avoir comme effet que je me suis dit, là, je peux y aller. Je peux faire ça. Je peux y croire. Voilà. Parce que ça touchait, au fond, alors, je ne pense pas que c'est les affects comme ceux qu'on peut avoir en fin d'analyse. C'est juste quelque chose qui était peut-être du côté du fantasme qui était touché, qui était ébranlé. C'est-à-dire que le fantasme ne fonctionnait pas, alors il s'est récupéré, mais il y avait quelque chose où il y avait possibilité de lâcher un petit bout de quelque chose. C'est ça que j'appelle l'intime, en fait.
Voilà. Si je peux, parce que sur la... Oui. Sur l'affaire de responsabilité et de la conscience, c'était pour suivre là. Je ne suis pas sûr que la responsabilité de l'analyste, ici, pour le coup, concerne la conscience exactement. C'est-à-dire, il y a deux questions, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il prend des schémas comme ça. Parce qu'effectivement, il y a... On a liquidé un peu facilement l'affaire du sujet et de l'autre. Alors, bien sûr, il y a une dimension où il y a une dimension de symétrie, puis il y a une dimension où ce n'est pas symétrique. Donc, ce qu'il veut accentuer ici, c'est la dimension de dissymétrie. Mais la dissymétrie, elle joue aussi sur la question de l'inconscient. Y croire à l'inconscient, c'est la condition que Freud donnait pour être analyste, il fallait croire à l'inconscient. Bon. Et en fait, il ne demandait rien d'autre, hein, en gros. Bon. Un peu... Il ne demandait rien d'autre, et Ferenczi, lui, demandait plus. Il trouvait que ça ne suffisait pas, qu'il fallait une vraie analyse, que la démonstration de l'existence de l'inconscient était insuffisante. Donc, y croire à l'inconscient, c'est après tout peut-être aussi ce qui se décide dans les... ça rejoint peut-être la différence entre la question de la supposition de savoir comme un produit, pas comme quelque chose qui est donné. C'est pareil, la supposition de savoir est effectivement équivalente à croire à l'inconscient. Ça, oui. De ce point de vue-là, oui. La responsabilité du sujet vis-à-vis de l'inconscient, ça, c'est quelque chose qui est, en quelque sorte, on pourrait dire hors analyse. C'est-à-dire, on est responsable de toute façon de son inconscient. Simplement, après, il y a de quelle façon on est responsable de l'inconscient dans l'analyse quand l'inconscient est mobilisé d'une certaine façon. C'est-à-dire, effectivement, le propre de l'analyse, ce n'est pas tellement de faire en sorte que l'analysant croit à l'inconscient, mais un tout petit pas supplémentaire, c'est qu'il en soit responsable. C'est quand même l'idée. La responsabilité de l'analyste, elle n'est pas exactement de cet ordre. Elle est de rendre possible cette opération. Mais on n'a pas dit qu'elle était dans le registre de l'inconscient exactement. Qu'est-ce qui fait que l'analyste peut faire cette opération? Alors on dit gentiment, il faut qu'il ait fait une analyse. Bon, on n'est pas très avancé avec ça. Parce qu'on ne sait pas très bien. Hein, et, bon, Lacan a trépatouillé ça, mais il ne sait pas. Hein. Donc, c'est pas là. Quand il est question de la responsabilité de l'analyste, la responsabilité de l'analyste, ce n'est pas de cet ordre. Ce n'est pas de l'ordre de l'inconscient, à mon sens. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il donne avec l'acte, etc. C'est-à-dire. On voit bien, il y a une dissymétrie entre l'acte manqué, le passage à l'acte, et puis ce qu'il appelle l'acte, enfin, un peu plus mystérieux, mais enfin, on a l'idée que l'acte n'est pas du même ordre, même si c'est pas dans le même registre, c'est pas seulement ce qui fonde l'acte, c'est l'acte manqué, d'accord, c'est vrai, sauf que c'est pas le même registre. C'est un autre registre, et donc la responsabilité de l'analyste, c'est de repérer le fonctionnement de l'inconscient de l'analysant. Mais repérer le fonctionnement de l'analysant, ce n'est pas exactement la même opération que croire à l'inconscient. C'est une autre opération. Alors, qui concerne l'inconscient, mais ce n'est pas la même. Donc, sur l'affaire de la responsabilité, la réponse du sujet dans on dit responsabilité, c'est la réponse du sujet dans le réel, d'accord ? Le réel, le sujet comme réponse du réel, non ? Mais ça, c'est d'autres choses. Donc, je serais pour faire la différence. Ici. Allez.
Oui. Merci pour cet exposé. J'ai une question sur la modalité au démarrage pour l'entrée dans le transfert à partir des exposés de Christophe et de Louise, où il y a une modalité temporelle qui m'a l'air différente pour Christophe. Je crois que vous avez évoqué le mot défraction. Donc ça a l'air très localisé dans le temps. Et pour lui, c'est plutôt un maniement du semblant d'objet qui a l'air donc de se déployer davantage dans une temporalité. Comment les uns et les autres vous positionnez sur ce plan temporel?
On répond peut-être
On prend deux, trois questions.
Ok.
Je vais poser une question un peu différente, mais une autre qui est un peu dans la même veine. Donc je commence par la seconde.
Ça marche pas avec
vous. Vous avez éteint ?
Non. Mais apparemment, c'est effectif.
Oui, non.
On a des mêmes avec les filles.
Bon. Oui, ça va ?
Oui,
ça va mieux.
Je me disais en vous écoutant que je pensais au fait que le sujet se posait, enfin, tel que je pense les choses, je trouve que la discussion est bien entamée et que c'est bien qu'on discute de ces choses. J'ai toujours eu l'idée que le sujet se posait savoir est là d'emblée, d'entrée de jeu. En tout cas, avec les sujets névrosés. Et j'entends dans ce sens la remarque que Lacan fait dans D'un autre à l'autre, quand il dit que le névrosé est naturellement psychanalysant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, c'est comme ça que je l'entends, dans la structure de la névrose elle-même, qui implique, qui entraîne elle-même la supposition de savoir à un autre. La croyance à un autre qui sait. Donc, il me semble, et dans mon expérience, c'est comme ça que je crois le comprendre aussi, ça se passe tout seul. C'est parti.
Oui.
Bon. Ça revient ?
Oui.
C'est revenu. Alors, je trouvais très intéressante l'idée de l'évocation dans l'exposé de Christophe Charles de cette interprétation initiale, de l'effet que ça a eu. Je me disais peut-être que cette interprétation initiale, ça y est, c'est parti.
Oui.
Ça s'en va, ça revient.
Oui.
Cette interprétation initiale est celle qui touche, si j'ai bien suivi votre raisonnement, à l'intime. C'est-à-dire, c'est une interprétation qui... C'est une interprétation. Oh là là.
Mais on t'entend, on t'entend.
Bon, c'est une interprétation qui touche juste. C'est-à-dire qui révèle, qui dévoile un point de vérité au sujet. Qui fait mouche. Voilà. Alors, peut-être que c'est ça qui fait, si je puis dire, virer les choses, qui fait passer à quelque chose qui n'est plus simplement la supposition de savoir faite à l'analyste, mais qui est de l'ordre de ce qu'on peut situer du côté de l'analyste, c'est-à-dire de son travail d'avoir à causer le désir d'analyse. Hein, c'est-à-dire, comme le proposait Luis, c'est le moment où l'analyste entre en jeu comme cause du désir de l'analysant, cause de son désir d'analyse. Alors, je pensais, en vous écoutant, que cette interprétation initiale marque bien un des modes, une façon où ça se présentifie et où ça s'effectue. Voilà ce que je vous propose à la table, parce que vos exposés, en fait, se croisent. Et puis, une question plus spécifique, si je puis dire, sur un point de l'exposé de Colette, Seppel, j'aurais bien aimé qu'elle nous dise un peu plus sur ce... tu as parlé de névrose de transfert et de psychose de transfert, non, de transfert
transitoire.
Psychose de transfert transitoire. Bon, j'aimerais bien en savoir un peu plus.
Je te dis rapidement, c'est juste quand il revient sur le cas de l'homme au loup et où Freud signale qu'on a pu repérer là un moment psychotique transitoire. Donc,
je pensais qu'on faisait quelque chose d'autre.
Non, non. Je te répondrai
peut-être oui.
On peut commencer à...
Oui, oui.
Oui, par rapport à la première question sur maniement et fraction, ce ne sont pas deux notions qui sont contradictoires. La question du maniement, ça concerne la façon dont l'analyste intervient, les fractions, c'est ce qui doit se produire du côté du sujet. Donc l'idée de l'effraction, elle est juste, parce qu'il faut qu'il y ait une discontinuité à l'entrée dans une analyse. Ça ne peut pas être le récit régulier que le sujet amène jusqu'à ce moment-là et puis il continue. Donc, pour qu'il y ait ces moments disruptifs, il faut qu'il y ait un maniement qui le produise. Donc, il n'y a pas de contradiction.
Donc, par rapport à la remarque de Sol. Oui, la question, moi aussi, je m'étais posé la question sur le naturellement, donc par le Lacan. Mon idée, je n'ai pas exactement, je me pose la question également, hein, mais je ne suis pas complètement de cet avis de le dire comme nécessairement tout névrosé et vient à l'analyse avec le sujet supposé savoir constitué. Naturellement, je le vois comme mieux disposé, comme naturellement disposé, disons, comme la disposition du névrosé. Il me semble que c'est ça qui permet de répondre à la contradiction qui serait que d'un côté c'est naturel, donc on peut penser que c'est tous, alors qu'il y en a beaucoup qui viennent à l'analyse et ne rentrent pas.
C'est-à-dire oui, ça c'est autre chose. L'entrée dans l'analyse, c'est autre chose. Autre chose que la supposition de savoir.
Ah, une fois qu'il y a... Lacan, quand il pose le sujet supposé savoir, c'est l'introduction du matin du transfert. Donc, pour qu'il y ait sujet supposé savoir, il y a l'installation, disons, du matin du transfert, il y a des gens qui ne rentrent pas. Qui ne rentrent pas, oui, c'est mon avis. Hein.
Parce que justement, c'est sujet supposé savoir quelque chose sur ma jouissance. C'est ça la question de l'intime. C'est-à-dire que la pente naturelle du névrosé, c'est de croire l'autre. Et d'ailleurs, il ne va pas avoir que des analystes, hein, névrosés, pour essayer d'aller mieux dans sa vie. Pour qu'une analyse ait lieu, il faut qu'il rencontre quelqu'un qui va pouvoir faire une réponse où il va, lui, le futur analysant, pouvoir mettre en place un supposé savoir sur ma jouissance. Et donc, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui ait été mobilisé du côté de l'analysant sur cet intime de la jouissance. Et c'est à là qu'on peut ensuite faire cette supposition de savoir à l'autre. Sinon, on peut aller voir un autre thérapeute. Il y en a plein. Hein.
Alors, c'est-à-dire, c'est la question porte sur... en effet, il y a une supposition de savoir dans la névrose. Peut-être que c'est ça les naturels, mais il y a des sujets qui viennent à l'analyse, ils vont voir avant beaucoup d'autres praticiens. Toute la question, c'est est-ce qu'avec celui-là, avec ce partenaire-là, il y aura constitution de sujets supposés savoir. Donc la supposition de savoir est généralisée. Disons, voilà. Il y a un autre à qui on suppose de savoir. Maintenant, il s'agit de savoir si avec celui-là, je le constitue comme sujet supposé savoir. Donc, et ça, c'est pas donné de départ.
C'est pas avec n'importe quel que ça passe.
Alors, il y avait un petit élément à rajouter sur le. Alors, d'abord sur le temps, le maniement du transfert. Il faut jamais oublier. Les deux dimensions du transfert. Bon, on a appris ça au départ, mais enfin, l'idée que le transfert est une émergence instantanée, n'est-ce pas, de la présence de l'analyste comme Freud le décrit au départ. Il dit d'ailleurs un transfert. Bon, un transfert surgit. Voilà. Hein, bon, d'accord. Et puis, donc, cette manifestation du transfert, elle existe toujours. Donc, il y a toujours une dimension instantanée du transfert. Et puis, il y a le transfert au long cours. Donc, il y a deux... faut pas, avec le transfert qui englobe toute la cure, imaginer que les émergences du transfert ont disparu pour autant. C'est-à-dire, il y a ce côté disruptif du fonctionnement du transfert, c'est le côté disruptif de l'analyse elle-même. C'est-à-dire, ce côté émergence de l'inconscient, refus de, etc., etc. On a tout à fait tort d'opposer le Lacan numéro 2 au Lacan numéro 1, parce que je n'ai pas poursuivi la monstration à propos de ça, mais déjà on passe d'un schéma, disons en gros du schéma optique, mais enfin il implique toutes les données qui vont suivre, qui sont incluses dans ce petit schéma de, disons, du bridge. Hein. Et il insiste énormément pour détacher la personne de l'analyste du mort. C'est-à-dire, attendez, d'ailleurs, il le reprend, attends, je ne sais plus où, à la fin, il le reprend, il dit, ouais, c'est un des dangers bien connus, il y a longtemps que j'ai mis l'accent, le versant d'obsessionnalisation qui s'offre à la pratique analytique. Je dois dire que cette référence aux morts me paraît scabreuse, il parle de l'intervention de quelqu'un d'autre. Hein. Même quand j'ai évoqué la partie de bridge, je n'ai pas mis l'analyste à la place du mort. Il joue avec le jeu du mort, c'est pas pareil. Voilà, donc c'était pour... C'est pour ça que, sur la question de l'objectif et de la puissance, ce sont des formulations écluses.
Moi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention que vous avez faite sur la responsabilité, parce qu'elle me semblait cibler assez bien les choses qui se disaient. La question de la responsabilité, elle est freudienne de départ. C'est dans l'interprétation du rêve, Freud nous dit que le rêveur est responsable de ses rêves. Lorsqu'un analysant, une analysante, rêve que quelqu'un est assassiné dans un rêve et qu'il lui apparaît que c'est il ou elle qui est le metteur en scène du rêve et donc l'assassin, il y a là quelque chose comme l'apparition de la supposition de savoir. Du fait même que l'inconscient a été mis en mouvement, c'est-à-dire qu'on y a cru un instant, précisément, l'analysant ou l'analysante, se découvrant meurtrier de la personne morte dans le rêve assassiné, se découvre un savoir. Et à ce moment-là, le passage à la supposition de savoir est fait. Dans la mesure où l'analysant se découvre ce savoir, il y avait du savoir en jeu qui circulait de l'analyste à lui ou elle. Donc là, le mouvement de la supposition de savoir est directement lié avec la responsabilité et la croyance. Il n'y a pas d'antécédence nécessaire. Il y a un mouvement de la nécessité, en quelque sorte, de ce qui ne peut pas ne pas se dire, de ce qui ne cesse pas de se dire, dans la cure, à partir du moment où est mis en mouvement cela. Il y a un deuxième mouvement, me semble-t-il, caractéristique aussi de ce dont on parle et qui rejoint ce dont Louis nous parlait, mais je crois, vous me direz si j'ai compris ce que vous vouliez dire, c'est le moment corrélatif où l'analysant ou l'analysante se dit qu'il ou elle prend une certaine part à ce qui lui arrive, à sa souffrance, à sa jouissance. Et ce mouvement-là est une bascule du désir entre le désir d'être désirable et le moment où l'analysant ou l'analysante s'apparaît désirant ou désirante. Et c'est là que s'accroche quelque chose, alors, du côté d'un semblant d'objet, quand ce moment d'être désirante ou désirant a fait bascule dans la cure. Mais tout cela, au fond, c'est le mouvement de la responsabilité de l'analysant. Et évidemment, si l'analyste parvient à tenir le coup, comme disait Jean-Jacques, ou s'y retrouver, ou avoir de la tactique, eh bien, sa tactique rejoindra le tact de l'analysant, me semble-t-il. Alors, je ne sais pas si c'est au diapason de ce que vous disiez. Mais j'ai essayé de prendre les choses dans l'expérience de façon basique.
Oui, le problème, c'est que je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a déjà le fait de venir rencontrer un analyste, ça suppose déjà un niveau de responsabilité de la part du sujet. C'est-à-dire qu'il assume qu'il est pour quelque chose, sinon il ne viendrait pas. Celui qui vient, déjà, c'est un premier niveau. Alors, il y a dans ces premiers niveaux des gens qui sont déjà au deuxième, troisième niveau, il y a des gens qui ne dépassent pas ce premier niveau. Ils se disent « je suis pour quelque chose » et ils continuent à répéter « je suis pour quelque chose » et ils ne vont pas plus loin. Hein. Donc il y a des niveaux dans la question de la responsabilité. Mais je suis d'accord sur le point que, d'ailleurs, une des premières remarques de Lacan sur l'interprétation, c'est « tu l'as dit ». Donc, le « tu l'as dit », c'est « tu es responsable de ce que tu produis, de ce que tu dis ». Donc, d'une certaine façon, la question de la responsabilité, l'analyste l'a fait peser sur l'analysant. C'est important que l'analysant puisse sentir qu'il est pour quelque chose. Mais il y a des façons et des façons de dire « je suis pour quelque chose ».
Question. Champagne.